Donc, je vous présente Sarah Castellano.
Bonjour à tous.
Qui est psychologue, qui était psychologue à l'UMJ de Garches. Romain Job, psychologue aussi. Mais alors, comme il s'est défini lui-même un psychologue atypique, d'une parce qu'il ne fait pas de clinique et qu'en plus, il est spécialiste des stats. Profil très intéressant. Et en fait, on a mené une enquête qui vont vous présenter notamment des résultats pour justement effectivement comprendre tout ça. Donc, je vous laisse la parole et vous me dites à quel moment je dois appuyer sur ceci.
On y va. Parfait. Bonjour à tous. Et nous sommes ravis d'être ici. L'idée de cette petite présentation, c'est de vous parler de l'évaluation de retentissement psychologique dans la procédure pénale du point de vue d'une enquête qu'on a lancée en 2020. Donc nous sommes plusieurs à avoir travaillé là-dessus, mais c'est Romain et moi qui avons la tâche de vous la présenter. Donc, l'objectif, est, après la création de l'Association des psychologues de médecine légale, c'était de faire un état des lieux objectif des représentations et des pratiques dans les UMJ autour de l'évaluation des retentissements psychologiques. Mais pour ça, on se dit, on ne va pas les faire qu'entre nous, on va solliciter et interroger toutes les personnes qui sont concernées, donc police, gendarmerie et justice. On s'est bien sûr appuyé sur les travaux que Mélanie vous a présentés tout à l'heure. Et à partir de là, on se dit, allez, on va voir les positionnements aussi des psychologues, à niveau, que ce soit en termes d'évaluation médico-légale, mais aussi dans les soins. Merci. Vas-y. Super.
La méthodologie qui a été employée était de deux questionnaires, un à destination des médecins et psychologues exerçant au sein des UMJ, et un questionnaire dans les grandes lignes similaires, mais à destination des fonctionnaires de police, gendarmes, avocats, procureurs de la République, qu'on a mis dans une grande catégorie qui était professionnel, police, justice. Des questions étaient communes, la plupart, mais également des questions spécifiques au fonctionnement des UMJ, résultats qu'on va vous présenter. Il y avait des questions ouvertes sur la représentation, les perceptions, les pratiques, et également des questions fermées, enfin des affirmations. Et les personnes, les participants et participantes devaient exprimer leur degré d'accord avec des phrases. C'est les stats que je vais présenter. La diffusion a été d'octobre 2020 à mars 2021, ce qui sous-entend une certaine ancienneté des résultats qu'on va vous présenter, même si, a priori, il n'y a pas eu de grosse évolution légale. Bon, peut-être que vous en direz d'autres choses, mais voilà. Donc, analyse statistique que je vais vous présenter et lexicométrique que présentera Sarah. Au niveau des participants, UMJ, 141 participants, 83 médecins, dont environ 60% de médecins légistes. 10% d'entre eux étaient des pédiatres légistes, 7% des psychiatres légistes. Au niveau des psychologues, 58 psychologues. Des grosses différences d'une UMJ à l'autre en termes d'équivalent temps plein. Ça allait de 0 à 6 équivalent temps plein pour l'UMJ. Et une multiplicité des noms des services. Pour environ 50%, il s'agissait du terme UMJ qui était employé pour ce service. 20% UMJ slash IML. 10% IML seul et 10% UAPED seul. Lié également au public reçu, pour environ 80%, j'ai plus exactement le pourcentage exact en tête, les personnes reçues pouvaient être des mineurs et des majeurs. Pour 15%, il s'agissait uniquement de mineurs. Et je ne sais plus à combien de pourcents il nous reste, environ 3% que des majeurs. Pour les participants police-justice, beaucoup plus de participants et une écrasante majorité de policiers qui ont répondu, donc un gros biais d'échantillonnage. Les réponses seront essentiellement à 60-70% les réponses des policiers. 154 gendarmes, 40 magistrats, je crois qu'il y a des avocats également après. Voilà. Et point important, quand même, 10% de ces professionnels font appel à des libéraux et non pas à des structures dédiées, qu'on les appelle UMJ ou IML.
Lorsque nous avons analysé les discours des professions concernant les représentations de l'évaluation médico-légale du retentissement psychologique, on voit que parmi les professionnels des UMJ, mais professionnels de justice et police aussi, on arrive à trouver les mêmes thématiques, les mêmes sujets, en termes des objectifs, en termes des professionnels qui réalisent l'évaluation, mais aussi par rapport à la symptomatologie et l'importance de la symptomatologie. Chez les côtés des professionnels des UMJ, on est bien sûr plus, on a tendance à se concentrer sur la recherche des signes tout ce qui peut donner du point de vue clinique un état des lieux sur le retentissement psychologique qui puisse permettre de poser un ITT ou répondre à la demande des retentissements psychologiques s'il y en a. On est plus dans la transmission de quelque chose de plutôt une vision globale et tenant compte de la recontextualisation et aussi et l'histoire de la personne, mais aussi l'importance c'est de pouvoir lui donner une parole aux victimes. Donc vous voyez, on est plus dans la subjectivité. Côté professionnel de police et justice, ils sont centrés aussi, tiennent les discours de la symptomatologie, mais sont plutôt orientés vers les conséquences, vers l'établissement des preuves, vers la question de la crédibilité aussi des victimes. L'idée, c'est pouvoir aider à la qualification pénale. Le but aussi, c'est de pouvoir évaluer cette ITT, de donner un chiffre qui permet d'évaluer les préjudices. Et bien sûr, prévoir si besoin un accompagnement et par la suite. Donc vous voyez, on a des attentes différentes, on a des façons de voir différentes les symptômes, et la notion de quantification et qualification commence petit peu à sortir.
Concernant les items présentés aux participants, ils avaient donc à évoquer leur degré d'accord sur une échelle allant de 1, pas du tout d'accord, à 5, tout à fait d'accord. La ligne horizontale à 3, c'était juste pour indiquer la moyenne. Et donc là, il s'agit des perceptions des personnels UMJ concernant, avec la couleur, je ne sais pas, j'ai du mal avec les couleurs, mais la couleur foncée, c'est l'évaluation du retentissement psychologique. La couleur claire, c'est l'ITT psychologique. Donc les mêmes questions étaient posées concernant l'évaluation du retentissement et concernant l'ITT psychologique. Ce qui apparaît à chaque fois, les différences sont significatives. Je ne vais pas vous détailler la p-value de tout ça, mais il y a des différences significatives concernant le fait que ce soit une notion claire, à savoir l'évaluation de retentissement psychologique est une notion plutôt claire pour les personnels en UMJ, contrairement à ce que l'ITT psychologique. Elle est également perçue comme plus utile pour la justice que l'ITT psychologique. Donc ça, ce sont les perceptions. Ça ne dit pas grand-chose de qu'est-ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà les perceptions des personnels UMJ. Et dernier point, c'est sur la simplicité de réaliser ces différentes évaluations ou donner une ITT. Ça semble être compliqué pour les deux, mais encore plus difficile lorsqu'il s'agit de donner une ITT psychologique. Ici, donc on a personnel UMJ. Donc là, il s'agissait, les mêmes questions avaient pu être posées à la fois au personnel UMJ et au personnel police-justice, qui a permis éventuellement de comparer des réponses. Premier point sur le fait que donc là on s'intéresse à l'évaluation du retentissement psychologique. C'est une notion qui apparaît plutôt claire à la fois pour les personnels police-justice et pour les personnels en UMJ. Pas de différence significative. En revanche, sur les deux points suivants, alors je vais essayer de le présenter de manière claire, ce sera peut-être un échec, mais voilà. Concernant les réquisitions reçues, elles apparaissent moins claires pour les personnes en UMJ que les réponses qu'ils en donnent, que les rapports qu'ils en fournissent. La réquisition est moins claire que le rapport qui est fourni. Ce qui est paradoxal. Je reçois une réquisition que je ne perçois comme pas très claire, mais le rapport qui en est fourni est perçu comme relativement clair par les personnels de la justice. Exactement la même chose pour la cohérence avec les réponses qui pourront être fournies. N'hésitez pas à me dire que c'est pas clair du tout. Mais c'est un résultat paradoxal, qui est également que les réquisitions reçues sont perçues comme moyennement cohérentes avec les réponses qui pourraient être fournies par ces personnels en UMJ. Mais en revanche, les rapports fournis sont jugés comme plutôt cohérents avec les questions posées par les personnels police et justice. Voilà. Et concernant la perception d'utilité pour la justice, une perception d'unicité importante de l'évaluation du retentissement psychologique pour les deux populations, encore plus pour les personnels du MJ. Voilà.
C'est qu'on doit être très très fort.
On est magicien, on est trop fort. Donc par la suite...
Non, pas de souci. Dernier point des comparaisons et des anistates, il s'agissait de comparer les notions d'ITT psychologique pour les personnels UMJ et pour les personnels police et justice. Et c'est certainement en lien aussi avec la UTA précédente. La notion d'ITT psychologique est perçue comme très peu claire par les personnels UMJ, donc les personnels qui l'ont à délivrer cette ITT, mais en revanche, elle est perçue comme très claire, comme étant une notion très claire, enfin plutôt claire, par les personnels police et justice. Et en termes d'utilité, l'utilité est perçue comme plus élevée par les personnels justice et police. une plus utile en comparaison des personnels du MJ.
Alors, non content d'avoir fait toute cette analyse statistique, merci Romain, on a analysé aussi les discours et on retrouve exactement la même chose après encore une analyse lexicométrique. Concernant les professionnels des UMJ, ou concernant les thématiques, on part tous les deux et partage la question de la définition de l'ITT, la question des éléments de quantification chez les personnels des UMJ, mais aussi des limites. Donc là, je vais détailler un tout petit peu. En termes de définition d'ITT, chez les professionnels des UMJ, c'est qu'on trouve dans leur discours qu'eux, ils ne se trouvent pas dans cette définition, et parce que pour certains, ça n'a pas de sens, tel qu'il est défini aujourd'hui. Ils préfèrent, ils sont restés plutôt focalisés sur la répercussion des événements, de l'histoire des vies, ou de l'événement potentiellement traumatique du point de vue psychologique. Cette ITT est vue comme un élément de quantification. Il représente des limites. En termes de limites, pourquoi ? C'est surtout parce que c'est un concept qui va chercher à objectiver, par un chiffre, des séquelles psychologiques d'un événement. C'est une notion, du point de vue légal, mais aussi qu'est-ce qu'un chiffre, du point de vue quantifiable, et qui reste très floue, et qu'elle semble peu adaptée à la réalité de la clinique et permettant d'établir un retentissement psychologique. Donc pour certains dans leur discours, on trouve qu'il n'y a pas de dissociation entre l'ITT physique et psychologique. C'est comme si on pouvait tout mettre sur le même ITT et on y va. Mais aussi, ce qui ressort dans cette analyse, c'est que l'ITT psychologique n'existe pas du point de vue légal et qui n'est pas non plus une recommandation de l'HAS. Donc c'est un peu difficile de travailler quelque chose et de représenter quelque chose pour les professionnels des UMJ qui ne participent pas, qui n'est pas dans la recommandation. Donc l'ITT, c'est donc une notion pénale qui reprend en compte les somatiques et les psychiques. Si on se tourne vers les professionnels de justice et des polices, la définition de l'ITT prend plus un aspect juridique. Vous me pardonnerez mon accent. Donc, eux, ils sont plutôt focalisés sur la question de la quantification qui puisse servir à la justice. Il n'y a pas trop de différence pour eux entre l'ITT physique et l'ITT psychologique. C'est un petit micmac et l'un sert à l'autre. Donc, ça a une fonction. L'ITT pour eux est très clair. Il a une fonction très claire. Mais aussi, il a des objectifs. En termes des objectifs, comme je disais tout à l'heure, il va venir et quantifier et l'incapacité qui est entraînée par une blessure psychologique et donc établir un lien avec la gravité. Donc, il va quantifier aussi les préjudices psychologiques. Et plus il est important, plus le retentissement est important, donc l'incapacité de la personne à reprendre sa vie quotidienne et faire face au quotidien. Donc, c'est la question du discours, des représentations de l'ITT psychologique. La question, c'est qui demande de posséder des ITT psychologiques. Et on voit que, officiellement, chez les personnels des UMJ, dans cette enquête, 43% ont répondu que non, qu'ils ne reçoivent pas une demande officielle d'ITT dans la réquisition de posséder des ITT psychologiques. Par contre, 41% vous disent oui, de manière formelle, et 17% de manière plus ou moins informelle. Donc on est dans une majorité, si on tient compte de la globalité, d'une demande de posséder un ITT psychologique. Chez les personnes qui travaillent dans la justice et dans la police, 73% vous disent que non, qu'ils ne font pas cette demande d'ITT psychologique, et 27% disent clairement oui, on l'a fait. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Pardon.
Alors, là, on va parler un tout petit peu, ça va être plus drôle. Et concrètement, tu peux y aller. Donc, à droite et en couleur, vous allez voir, sont des réquisitions. Ici sont des exemples de réquisitions, ça vient de mon UMJ 92. Et en couleur rose à droite, vous voyez que c'est destiné aux messieurs psychologues des permanences, qui n'existaient pas. Et on demande un retentissement psychologique après avoir demandé un examen médical. et fournir un certificat médical avec des jours des ITT. On voit aussi pour au milieu, et on demande aux médecins qu'ils fassent aussi un retentissement psychologique et un état descriptif et en mentionnant l'ITT pour un cas d'harcèlement plus haut. Et c'est là où ça devient plus complexe. C'est qu'on demande des choses et pour un cas de viol par conjoint. On demande sur les troubles psychiques et physiques, on demande aussi les degrés de lucidité de la victime, la maturité sexuelle, et si la personne aurait pu résister ou pas à l'agression, aux agressions. Donc, bien sûr, il faut remettre un rapport avec des jours d'ITT. Un autre exemple aussi, pareil, sur viol sur mineur, on demande aussi les aspects de la personnalité, et les niveaux d'intelligence, la véracité, qu'est-ce qui aurait pu influencer la victime sur ses propos, les degrés de connaissance en matière sexuelle, parmi d'autres, hein. Et bien sûr, il faut fixer des ITT si nécessaire. ITT psychologique, hein. ITT psychologique. Donc, et ça sont des exemples de la réalité de certaines réquisitions. Ça ne veut pas dire qu'elles soient représentatives de toute la France, mais il y a 2 ans, 3 ans de différence entre la réquisition en couleur et la réquisition qui est ici. Mais la question se pose toujours. Donc, comment on répond à ce type de demandes, des réquisitions ? Là aussi, ça va être quelque chose qui est un tout petit peu biaisé compte tenu des nombres de réponses et des participants. La grande majorité des réponses, en 38%, on est dans quelque chose de certificat médical avec ITT psychologique et physique. 23% des personnes qui ont répondu établissent un certificat médical ITT somatique uniquement. Les restes, je pense que les 19%, c'est surtout les psychologues, parce qu'ils font un compte-rendu sans ITT psychologique et la suite des certificats médicaux sans ITT, des comptes rendus avec ITT psychologique ou autre. Si une autre partie de cette étude, c'était aussi de s'orienter vers les difficultés et les besoins des pratiques des professionnels des UMJ. Parmi les besoins, ce qui est demandé, c'est la question que les demandes soient plus claires. On a besoin de clarté de la part des OPJ et de la justice et concernant la définition des retentissements psychologiques. Chacun fait un peu à sa sauce et chacun entend ce qu'il peut et veut de la définition des retentissements psychologiques. Cette demande de définition claire aussi, elle concerne l'ITT. De quoi on parle ? Est-ce qu'on peut faire une définition plus claire du retentissement psychologique ? Est-ce qu'on supprime la notion d'ITT psychologique ? Parce que on a besoin vraiment de quantifier une souffrance qui n'est pas forcément quantifiable. Est-ce qu'on modifie l'ITT psychologique actuel au sens pénal ou on donne un nouveau cadre juridique ? Donc, les personnels des UMJ, ils ont besoin d'un peu des réponses dans ce sens-là. Besoin, bien sûr, de temps, parce que les entretiens de rédaction, des entretiens en soi, ça peut aller de 45 minutes à 1 heure. Vous avez vu la taille de la réquisition ? En 1 heure 30 ? Bref, donc et plus de temps de consultation, plus de temps de rédaction, sachant que les évaluations de retentissement psychologique, c'est unique. On n'a pas la possibilité de faire plusieurs. Donc, des outils, et les personnels des UMJ, on est en demande aussi que l'évaluation soit plus homogène, que la pratique soit plus homogène, et que ce soit via des échelles d'évaluation plutôt cohérentes et validées. Donc, ça implique un gros travail de préparation et des consensus, mais aussi pour que ce type de cohérence puisse permettre une homogénéité aussi dans la réponse qu'on va donner à la police et à la justice. Bien sûr, parfois, des éléments supplémentaires de la procédure sont nécessaires, et surtout en termes d'antécédents, surtout des informations sur l'état intérieur, d'autant plus quand on reçoit une victime pour des faits qui sont arrivés il y a 5 ans, avec un PV qui date des 5 ans. Donc, professeur Proussel parlait tout à l'heure de la temporalité, et j'en reviendrai, on est dans les mêmes cas de figure. Et bien sûr, et la question des compétences. Et peut-être, ce qui ressort, la pertinence de la coévaluation, médecin et psychologue. C'est un binôme qui marche bien en général, qui peut être intéressant. Deux minutes. Donc, plus des formations en psychiatrie, mais aussi des dispensés et des psychologues qui sont dédiés à cette mission. Et j'accélère. En termes de difficultés...
Oui, j'arrive. C'est l'enfer. Voilà.
En termes de difficultés, je vais aller un peu plus vite, et établir un lien de causalité. C'est extrêmement dur pour les psychologues et d'autres professionnels des UMJ d'établir un lien, une étiologie directe entre les symptômes et l'événement potentiellement traumatique sans tenir compte des autres événements qui auraient pu avoir dans la vie de cette personne, de la victime. Et cette confusion qu'il peut avoir aussi entre les sujets victimes d'infractions pénales et sujets traumatisés. Et comment on peut faire pour imputer un état psychologique pour des choses, des événements intérieurs. Les propos déclaratifs aussi, ça représente une difficulté. On nous demande d'éclaircir sur les imprécisions des déclarations, la fiabilité des victimes, surtout quand ils sont des enfants. Est-ce qu'ils disent vraiment la vérité ou pas? Donc à nous, là je parle des psychologues, d'établir une certaine vérité. Les manques d'outils aussi. Donc là, ça rejoint la question de Besson, les critères de repérage et les grilles valides et validées. Et la question de type de violence, comment on fait pour évaluer un retentissement psychologique quand les violences sont chroniques et répétitives. La temporalité, manque de temps, mais aussi la question de la demande. Est-ce que les demandes, parfois, elles arrivent tout de suite quand la personne est mise en cause et en détention. Donc, il faut aller vite, et faire une évaluation de retentissement psychologique sur la victime, parce qu'on est comme ça, on va les prendre en flagrant délit. Et certaines instrumentalisations aussi, c'est une difficulté. Et là, je peux vous dire, quand on vous appelle et on vous dit, bon, écoutez, ça va être classé sans suite, mais il faudrait les faire quand même, parce que comme ça, la victime a l'impression qu'on fait quelque chose pour elle. Bon, c'est un peu moyen. Quand on nous dit aussi, c'est parce que la victime les demande, mais bon, c'est pas nécessaire. Ou quand on nous dit tout simplement, pour faire avancer l'enquête. Donc, on est un peu dans l'instrumentalisation. Et finalement, la question du rapport à l'ITT. Un retentissement psychologique ne donne pas forcément lieu à un ITT psychologique. Donc, il est important, c'est difficile de répondre à cette demande de donner un chiffre sur un examen unique et un ITT qui doit être posé. Cet ITT était à évaluer dans un contexte des violences psychologiques, que ce soit unique, répétée ou ancienne. Donc, voilà une des difficultés majeures. Et une dernière qui n'est pas dans les PowerPoint, c'est quelle prise en charge pour ces personnes. Parce que, certes, on fait l'évaluation et la suite, ça aussi, ça pose des problèmes.
La conclusion en 20 secondes. Objectif commun, c'est d'agir pour le bien de la victime, dans le cadre de la procédure, dans le cadre d'une évaluation de retentissement, mais aussi dans l'accompagnement, dans la suite, à quel point on est dans le soin ou que dans l'évaluation, à quel point on ne peut pas être complètement que dans l'évaluation. Grande similarité de vocabulaire utilisée finalement par les différents professionnels, mais peut-être avec des définitions différentes. L'intérêt de reconnaître les besoins et les attentes de chaque professionnel, qui peuvent être parfois un peu différents, voire s'opposer. Nécessité de clarifier conjointement les différences et similitudes, notamment autour de l'ITT, l'ITT psychologique et somatique, ou à part, ou une autre notion. Et finalement, le fait qu'on ait déjà un langage commun, est-ce que ça pourrait pas amener un consensus au sein des différentes UMJ ? On a un consensus en termes de définition, en termes d'outils, en termes de manière de réaliser ces évaluations, également entre les champs professionnels, et c'est justement l'objet de ce colloque, comme le disait Mélanie en introduction, ça ne va pas être de trouver des réponses dans la journée, mais discuter, d'échanger, de débattre, pour éventuellement tendre vers un consensus, un langage commun, et peut-être des termes un peu mieux définis à l'issue de cette journée. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci.